Vous êtes avec Bruno Millienne, député des Yvelines. Vous écoutez La Voix démocrate.
Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais revenir sur une élection qui m'a troublé, celle de Javier Milei, le président, désormais président de l'Argentine, surnommé El Loco. Je pense que les uns et les autres vous avez pu vous rendre compte que ce garçon était pour le moins tonitruant, ce qui dans ma bouche n'est pas forcément un compliment. Il a quand même des attitudes assez extrêmes et assez incroyable. Alors la bonne nouvelle, lui, il est plutôt c'est un ultra-libéral, mais plutôt d'extrême droite, anti-IVG, enfin, voilà, il cumule un certain nombre de critères qui ne le font pas passer dans le camp des démocrates, en tout cas. La seule bonne nouvelle à cette élection, c'est qu'il ne pourra pas gouverner seul. Il n'a pas la majorité, évidemment, à l'Assemblée argentine pour gouverner seul. Il sera obligé de faire des compromis. Mais au-delà de tout ça, ce qui m'interpelle, encore une fois, c'est la progression des populistes partout dans le monde où des démocraties étaient installées. On l'a vu, évidemment, en Europe, on l'a vu avec Donald Trump, et on risque de le revoir, malheureusement, encore avec Donald Trump aux prochaines élections aux États-Unis. Et il est temps, je pense, de se poser réellement la question de savoir comment et pourquoi ces gens, dont les programmes sont mortifères, en fait, pour les États qu'ils vont gouverner, en tout cas sont un vrai déni de démocratie, mais aussi mortifères économiquement pour les États qui vont gouverner, comment ces gens-là arrivent-ils à prospérer? Alors certes, il y a le populisme, il est facile de revendiquer de grandes idées simplistes qui parlent à tout le monde, et tout le monde va croire qu'effectivement c'est faisable à faire. La plupart du temps, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'ils veulent bien dire, ça c'est une chose. Mais surtout, je pense que c'est la faillite des élites, ou en tout cas des élus, on va dire démocrates de tous les pays, ceux qui sont pour la démocratie. D'ailleurs, vous pouvez constater que dans le monde, finalement, il y a maintenant moins d'un tiers des États qui sont démocratiques et deux tiers des États qui sont plus ou moins, dictatoriaux, ou en tout cas sous l'emprise de démocratie plus ou moins populaire. Je pense qu'une des raisons à cela est surtout le fait dont les élus dits démocrates se comportent une fois qu'ils arrivent au pouvoir. On l'a vu, que ce soit dans les élections municipales, à tous les échelons de l'État en France, il y a quand même une propension chez les édiles à être des gens normaux tant qu'ils ne sont pas élus, et tout d'un coup à devenir des petits barons ou des petits dictateurs en puissance dès qu'ils arrivent à la tête d'un exécutif. Ça, c'est un des sujets. Moins on associe les citoyens à la démocratie autour des élections, c'est pas simplement de faire simplement de la démocratie participative, mais moins on est au contact de ces citoyens, des administrés, moins on leur explique les choses, plus on a des décisions un petit peu directives qu'on prend sans vraiment les expliquer, ça peut pousser effectivement les gens à aller voir ces discours, à donner gage, en tout cas, une réalité peut-être possible de tous ceux qui profèrent ces discours populistes. Pour la France, on connaît évidemment les deux extrêmes qui excellent dans ce genre de discours, à savoir Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, ou Jordan Bardella, ou encore Marion Maréchal, parce qu'on est bien, et Éric Zemmour, on est bien dans le même cadre. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison que je voudrais mettre à votre réflexion, c'est le fait que, et je m'en rends compte quasiment tous les jours en tant que parlementaire, et le fait que le déploiement de nos politiques publiques sur le terrain ne sont pas perçus par les citoyens. Ne sont pas perçus par les citoyens parce que ce que nous votons avec pour la plupart d'entre nous, vraiment l'intérêt général chevillé au corps, passe ensuite par la production de décrets et puis le déploiement des politiques publiques qu'on vote sur le terrain, et ça, c'est fait de manière inégale. Vous n'avez qu'à aller sur le fameux observatoire de la vie publique qu'avait mis en place Amélie de Montchalin, du temps où elle était en charge du ministère de la fonction publique, qui pourra vous donner, département par département, très exactement, comment sont engagées les politiques publiques dans les départements, avec des icônes assez simples. Quand c'est vert, c'est bien. Quand c'est rouge, bah, c'est qu'il y a du boulot à faire. Et c'est pas suffisamment analysé, malheureusement, par les services déconcentrés de l'État. Il y a en général deux raisons à la non-mise en place des politiques publiques votées par le gouvernement. La première, ça peut être un manque de ressources humaines de la part des services déconcentrés de l'État. Et là, je regrette que les députés ne soient pas associés à l'analyse, parce que c'est leur boulot d'aller voir les ministères concernés et de leur dire « Écoutez, vous avez bien 2, 3, 4, 5, 6 personnes en administration centrale que vous pouvez dépêcher sur tel ou tel territoire pour poser les bases de la mise en place d'une politique publique qui n'a pas démarré ou qui a du mal à démarrer. » Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est un petit peu plus gênante. Il y a de la part de certaines collectivités locales qui sont en opposition avec un gouvernement, et ça, quel que soit le gouvernement, la volonté de mettre les deux pieds sur le frein pour ne pas engager ces politiques publiques, simplement parce que, politiquement, on est contre le gouvernement en place. Là, ça me pose plus de questions. On a eu un exemple récent, mais je pense qu'il s'est ravisé depuis, avec Laurent Wauquiez, qui a déclaré tout à trac, alors qu'il est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a déclaré tout à trac qu'il n'appliquerait pas la loi sur le zéro artificialisation net. Je vous pose la question, depuis quand un élu de la République, quel que soit son mandat, peut décider de ne pas appliquer la loi? Enfin, la première des responsabilités d'un élu, c'est d'appliquer la loi, même si elle ne lui convient pas, même si elle ne vient pas de son bord politique. Donc si à certains niveaux, et voire des niveaux très hauts, puisque là on parle quand même du président d'une région, et pas n'importe quelle région, si les élus se mettent à ne pas respecter la loi, comment voulez-vous que derrière que les citoyens la respectent? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a aussi le fait que dans les amendements qu'on dépose, dans la façon dont on étudie la loi ou un texte, on est très loin de la réalité et de l'efficacité qu'on pourrait avoir sur ce texte si simplement on travaillait uniquement dans l'intérêt général et finalement dans ce que veulent les Français. Prendre pour exemple la loi qu'on va discuter bientôt à l'Assemblée nationale, à savoir la loi sur l'immigration, le texte issu du Sénat, d'abord pour beaucoup des amendements qui ont été acceptés, pour beaucoup des choses qui sont dans ce texte est totalement inopérant et inacceptable. Il y a beaucoup des amendements qui ont été votés au Sénat qui vont tomber sous le coup de la constitutionnalité et qui ne seront pas applicables. D'autres qui sont simplement du yaka faucon quand on vous dit par exemple que on va renvoyer dans leur pays tous les délinquants du pays de France qui ont une double nationalité. Ben non, c'est juste pas possible en réalité au regard du droit international et même du droit français. Donc le boulot des élus qui veulent garder des démocraties vivantes, à mon sens, est d'avoir des propositions de loi qu'on les pousse aussi loin qu'on veuille, d'un côté ou de l'autre, des idéologies de droite ou de gauche, c'est de faire en sorte que, quel que soit le curseur qu'on choisisse, l'efficacité des mesures qu'on va appliquer après sur le terrain soit visible et soit faisable, tout simplement réaliste. Or, la plupart du temps, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Donc je pense que les Français, mais comme beaucoup de pays, beaucoup d'habitants des démocraties, ce qui reste de démocratie, jugent et voient notre action politique en se disant « voilà, il y a un pouvoir central qui nous impose des choses qui ne sont même pas étudiées à fond, avec des choses inapplicables. Ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils ont fait ci, ça ou ça, et on ne le voit pas sur le terrain. » Donc voilà, c'est vraiment une réflexion qu'il faut avoir à ce sujet-là. Je pense qu'aujourd'hui, entre guillemets, nos oppositions républicaines, pour parler de la France, que ce soit le PS ou les LR, à mon sens, s'enferment trop dans un dogmatisme idéologique avec des lignes de pensée et d'action qui malheureusement ne permettent pas de développer sur le terrain les théories qu'ils développent à l'intérieur de l'hémicycle ou même dans les médias en général. On peut tout à fait, je reprends encore l'exemple de la loi sur l'immigration, on peut tout à fait avoir des mesures entre guillemets de droite, c'est-à-dire être plus dur, un peu comme l'avait défini Gérald Darmanin, être méchant avec les méchants, gentil avec les gentils. On peut très bien le faire en poussant les curseurs au maximum d'un côté comme de l'autre, à condition qu'on puisse effectivement réaliser tout ce qu'on vote et que le citoyen le voit. Donc il nous reste, en tout cas, c'est ce que je pense, il nous reste pour les députés de la majorité, et pour le MoDem en particulier, parti auquel j'appartiens, il nous reste 4 ans pour qu'à chaque loi, on réfléchisse bien à l'application de la loi sur le terrain et à la façon dont les gens vont pouvoir l'apercevoir. Je vous prends un exemple que je trouve positif, c'est pas simplement parce que c'est moi qui l'ai demandé, rassurez-vous, mais a été remis hier un rapport au ministre Béchu, un rapport sur la TVA verte ou la TVA circulaire, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, c'est un rapport que j'avais demandé au gouvernement il y a 2 ans et qui est arrivé, que l'Institut national de l'économie circulaire a produit, donc c'est un institut indépendant, pour voir s'il était possible qu'on ait une TVA circulaire. C'est quoi la TVA circulaire ? En fait, c'est une baisse de TVA sur des produits vertueux sans faire perdre d'argent à l'État. Il se trouve que, d'après le rapport de l'INEC, je vous le résume un petit peu, c'est faisable. Quel est l'intérêt de cette mesure si on arrive à la mettre en place ? Et je pense qu'on va commencer à la mettre en place sur certaines filières de réparabilité dès 2025. L'intérêt, c'est de ne pas faire perdre d'argent à l'État, de permettre à des métiers qui ont tendance à disparaître, notamment dans la réparabilité, de les réintroduire, donc de faire des gens qui créent des entreprises, mais qui créent aussi des salariés, donc qui créent de l'emploi, et d'offrir aux consommateurs une transition écologique qui n'est pas punitive. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez acheter un produit vertueux, écologiquement parlant, il est forcément plus cher qu'un produit qui ne l'est pas vertueux, et fatalement, il ne concerne qu'une très petite partie de la population, donc l'ensemble de la population ne voit évidemment pas ce que nous faisons réellement pour la transition écologique. Cette TVA circulaire, notamment, permettra à nos citoyens de s'emparer de la chose écologique, de faire durer, puisqu'il s'agit de réparabilité, les objets qu'ils ramèneront en réparation, ainsi d'arrêter ce consumérisme qui nous est imposé par certaines multinationales pour aller vers une consommation bien plus raisonnable. D'ailleurs, on n'invente rien, vous remettez 2 générations en arrière. Moi, mes grands-parents, pour ne parler que de mon cas, je ne les ai jamais vus jeter des choses qui était réparable. On commençait par réparer, et après seulement, on jetait vraiment quand l'objet ou le vêtement ou n'importe quel objet était définitivement irréparable. Et c'est un petit peu vers ça qu'on veut revenir. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à chacune de nos pensées sur un texte de loi, vraiment à penser la chose comme les citoyens vont la recevoir, est-ce qu'elle est réaliste ou pas, est-ce qu'elle est faisable ou pas, est-ce qu'elle est efficace ou pas, et surtout, est-ce qu'elle est visible ? Parce que le but d'un élu, surtout d'un élu de la République, c'est pas de voter des lois simplement pour se faire plaisir ou par idéologie, c'est surtout de voter des lois pour l'intérêt général. Voilà, je laisse ça à votre réflexion. Bien évidemment, vous n'hésitez pas si vous voulez réagir. Nous répondrons effectivement à toutes les réactions qu'il peut y avoir, comme on le fait pour tous les podcasts. Et je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Au revoir.
Vous avez écouté La Voix démocrate. C'était Bruno Millienne, député des Yvelines.